Alors, j'espère que vous allez bien ce matin, que vous avez bien vécu ce temps de louange. Et en tout cas, c'est un plaisir d'être avec vous, de pouvoir vous partager ce que Dieu a mis sur mon cœur. Et pour introduire un peu ce que je vais vous partager aujourd'hui, je vais vous faire part d'une petite expérience vécue début juin à Berlin. J'étais à Berlin en voyage scolaire avec des élèves, des collègues. Et au menu de notre séjour à Berlin, on avait la visite de l'Observatoire National Aérospatial de Berlin. Donc l'observatoire allemand. Et on a eu le droit, durant cette visite, au témoignage d'un vieux chercheur allemand de 80 ans qui nous a fait part de ses réussites, de ses échecs. Et notamment un de ses échecs qui a attiré, moi, plus particulièrement mon attention, parce que pendant les 20 dernières années de sa vie, ce chercheur allemand a œuvré, a travaillé pour prouver scientifiquement comment le monde avait été créé. Si vous connaissez un petit peu, en gros, il voulait prouver scientifiquement la théorie du Big Bang. Et il nous a expliqué, à moi, mes collègues, mes élèves, comment au début il s'est confronté, il a tout de suite buté sur différentes difficultés, différents obstacles, qu'il a su lever dans un premier temps grâce notamment au progrès de la science, avant de buter sur un ultime obstacle qui a quand même buté pendant 10 années de sa vie, et puis disait encore aujourd'hui, il me tourmente et on n'arrive pas à le démontrer. Et ce fameux obstacle, il l'appelait la matière noire. Et il a dit cette phrase qui a percuté mon cœur. Je l'ai noté tout de suite pour vous la donner. Il disait à peu près, si un jour cette matière noire est découverte, comprise par un scientifique, alors toutes les zones d'ombre inexplicables par la science d'aujourd'hui au sujet de la compréhension de la création du monde pourront être comprises et accessibles par tous. Il n'y aura alors qu'une seule vérité. Et au moment où il a dit ça, mon cœur a été saisi d'une émotion forte, mais forte. Alors, ce n'était pas une émotion uniquement humaine, parce que ce qu'il venait de dire, je peux vous assurer que, en tout cas, moi, mes collègues et les élèves, ils n'avaient pas envie de pleurer, mais moi, j'avais envie de pleurer. Parce que cette émotion, elle n'était pas uniquement humaine, mais elle était aussi spirituelle, parce qu'elle était accompagnée de ce message, comme si Dieu écrivait sur mon cœur en même temps qu'il disait ces mots-là. C'est comme si Dieu me disait, tu vois, Geoffrey, cette matière noire, c'est le dernier obstacle, la dernière porte que j'ai placée entre moi et les hommes, les scientifiques, au sujet de la création du monde. Parce que si ces hommes veulent avoir la pleine connaissance de la création du monde, ils doivent passer par moi, le Créateur. Et j'étais saisi d'une émotion forte qui me donnait envie de pleurer. Je me suis dit, Geoffrey, retiens-toi, les élèves et tes collègues vont se demander quoi ? Ils vont dire, monsieur Van Hollemerch, il va plus très bien. Mais j'étais à la fois plein d'émotions, mais plein de joie. Et quand je suis... Et rapidement, en rentrant, j'ai pas la petite télécommande, mais c'est pas grave, Jean-Luc, tu peux cliquer, je te le dirai. J'avais envie de dire une seule chose. Vas-y. J'avais envie de dire la même chose que dans ce verset de Matthieu 11, 25. Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents pour les révéler à tes enfants. Parce que l'espace d'un instant, ce verset prenait tout son sens. J'avais l'impression juste, entre guillemets, mais c'était déjà énorme, parce que j'avais Dieu dans ma vie, d'en savoir plus que ce respecté et respectable chercheur allemand. Et alors j'aurais pu bien sûr à la fin aller le voir et lui dire « Excusez-moi monsieur, vous avez cherché pendant tant d'années, moi j'ai la solution, j'ai la réponse. » Bon, je pense qu'il m'aurait regardé avec des grands yeux, peut-être aussi parce que je parle pas allemand. Mais c'était pas en tout cas le sujet. Je suis rentré le soir, on était à une auberge de jeunesse et j'étais dans ma chambre et je louais le Seigneur. Je dis « Merci Seigneur de cette chance que l'on a, juste parce que qu'on te connaît, d'avoir accès à la pleine compréhension des choses les plus inexplicables, aussi bien par les plus grands penseurs et scientifiques de cette terre. » Et puis les jours ont avancé et puis ça restait dans ma tête ce que j'avais vécu. Et j'ai fait un petit peu, j'ai repensé à des discussions que j'avais eues avec des amis chrétiens, non chrétiens, et j'ai même fait une rétrospection de ma vie, et je me suis dit, bon Seigneur, c'est vrai que tu nous donnes accès à la pleine compréhension des choses les plus inexplicables de notre vie, mais j'ai tellement eu de discussions, j'ai tellement vécu de situations où des fois, je me suis retrouvé sans réponse. Et finalement, ce verset-là, Seigneur, j'aimerais qu'il s'applique à toutes les situations inexplicables de ma vie. Et c'est ce qui a inspiré mon thème de ce que je vais vous partager ce matin, tu peux cliquer Jean-Luc. Et le titre que j'ai résumé dans le titre, « Comment comprendre avec Dieu les situations inexplicables de la vie ?» Ça vous va ?
Oui.
Eh bien, on y va. Vas-y, tu peux cliquer, Jean-Luc. Et donc, avant de Pour commencer, pour introduire, je voulais être sûr qu'on soit sur la même longueur d'onde ce matin. Et je me suis dit, pour commencer, ce qui serait bien, c'est que je définisse avec vous ce que je vais appeler tout au long de la prédication l'inexplicable. Qu'est-ce que ça va être l'inexplicable ? Alors j'en ai fait une définition que j'ai essayé de travailler moi-même. J'espère que vous la comprendrez. En tout cas, j'ai essayé de la simplifier. Tu peux cliquer. Et j'ai dit donc, j'appellerai tout au long de cette prédication inexplicable toute situation qui fait preuve d'un questionnement dans votre vie, à travers des questions commençant principalement par le mot « pourquoi » et pour lesquelles on ne semble pas en mesure de trouver soit une réponse tout court, soit une preuve logique, rationnelle, terre à terre. Et il faut avouer que dans le monde dans lequel on vit, on est un monde, en France d'autant plus, on a l'esprit cartésien, on a hérité de cet esprit cartésien, et que l'on soit chrétien aussi, je pense, tout ce qui est inexplicable dérange. Je ne sais pas si vous avez déjà parlé avec des gens, même avec des scientifiques, moi je l'ai vécu dans mes études, j'ai fait des études de maths, tout ce qui ne se démontre pas n'a pas sa place, c'est même pas la peine d'en parler, tant qu'on ne le démontre pas, c'est pas possible. Et on a un petit peu un problème avec ça, du moins en France. Tout ce qui est inexplicable fait un peu peur. Pourtant, fort est de constater que dans notre vie de tous les jours, je pense que vous l'avez expérimenté, il y a des situations où on se retrouve sans réponse ou sans preuve logique, rationnelle, terre à terre. Tu peux cliquer, Jean-Luc, j'ai donné des exemples. Concrètement, les situations inexplicables, elles peuvent être de deux types, globales. C'est les situations qui ne concernent pas personnellement, mais nous interroge. Je vais vous donner des exemples, peut-être que ça vous parlera plus. C'est un peu ce que j'ai vécu à Berlin, où pendant les vacances, alors ça tombait bien, j'ai préparé cette prédication pendant les vacances. On a beaucoup de vacances, ça y est, je recommence. Et donc j'avais le temps de réfléchir. Et le Seigneur est bon quand même, parce que dans mes vacances et pendant que je prépare ma prédication, il permet que je vive des situations que je peux vous utiliser ce matin. Et on s'est retrouvés avec des situations inexplicables, mon épouse et moi, avec nos enfants, en vacances. Par exemple, on regardait Le Prince d'Égypte. Vous l'avez peut-être déjà vu, c'est un dessin animé super bien fait. Dieu est puissant, il le montre à travers, enfin, ce dessin animé le montre parfaitement, comment il a sorti son peuple d'Égypte avec une succession de miracles, un plan parfait. Enfin, c'est super bien fait. Et puis la dernière scène du dessin animé nous a interrogé. Je me suis dit, Seigneur, tu as fait un plan parfait tu as pour sortir ton peuple d'Égypte. Et puis, alors que tout semblait parfait, alors que tout semblait enfin arriver, tu le fais quoi? Tu lui fais arriver face à une mer, la mer. Que Moïse est obligé d'ouvrir en deux. Je dis, mais pourquoi, Seigneur? Pourquoi tu fais ça? Ton plan avait parfait. Tu aurais pu, je sais pas, faire un petit chemin de contournement, un chemin parfait. Pourquoi les faire arriver ton peuple face à la mer? Première situation globale, ça ne me concerne pas personnellement, mais ça m'interroge. Et puis, aussi, par exemple, pendant les vacances, on était à Sainte-Cécile, et puis, pour la première fois, ma fille a été confrontée, elle a vu une personne handicapée, très jeune, de naissance. Et mon épouse m'a posé la question. Elle a dit, bon, Alix, on a essayé de lui expliquer. Elle disait, mais pourquoi Dieu permet ça? Pourquoi Dieu permet que des gens naissent aveugles? Pourquoi Dieu permet que des gens naissent trisomiques également au sein de son peuple? Peut-être que vous connaissez des exemples. Et puis, donc, ça peut être des situations plus personnelles. On parlera des situations inexplicables liées à la maladie, décès, aux expériences douloureuses, aux difficultés financières, de travail, de soucis. Par exemple, pourquoi, Seigneur, tu permets que ce proche décède si jeune alors qu'il t'appartient? Pourquoi, Seigneur, tu permets que je perde mon travail alors que tu sais que j'en ai besoin, Seigneur? Pourquoi tu permets, Seigneur, que ma voiture tombe en panne alors que j'ai pas les moyens d'en payer une autre? Pourquoi, Seigneur, pourquoi, Seigneur, moi j'ai prié pour ce frère, pour mon collègue de travail, j'ai prié pour cette situation avec foi et pourtant ma prière n'est restée sans réponse et puis aujourd'hui il me regarde avec des drôles de yeux. Peut-être que vous êtes retrouvé dans des situations comme ça. Peut-être que vous avez vécu ces situations inexplicables. Peut-être que vous en vivez aujourd'hui. Peut-être que vous en vivrez plus tard. Eh bien, dans tous les cas, j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. Parce que j'ai étudié, j'ai cherché quand même. Dans les situations, Dieu ne veut pas nous laisser sans réponse et que nous allions la chercher auprès de lui. Les situations les plus inexplicables pour nous, Dieu en a une explication. Et il veut que nous allions la chercher avec cette promesse faite en Proverbe 23:23. Acquiert la vérité, cherche la vérité, même dans les situations les plus inexplicables et ne la vend pas. Ça va ? Voilà, qu'est-ce que l'inexplicable ? Tu peux cliquer, Jean-Luc, pour la suite. Et avant de vous donner les outils, parce que Dieu nous a donné des outils pour trouver les réponses aux situations les plus inexplicables, je me posais une question et je pensais que c'était important de poser la base et d'essayer de comprendre pourquoi Dieu permet-il que l'on vive des situations inexplicables dans notre vie. Et pour commencer, J'avais un encouragement pour vous, parce que je pense que c'est important. J'ai déjà entendu, alors je ne sais plus qui, je pense que même papa, tu l'as dit, on dit tous, ah, le jour où je serai face au Seigneur, j'aurai tellement de choses à lui demander. Je ne sais pas si vous êtes déjà posé cette question, aussi parce qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas, j'aurai tellement de choses à lui demander. Eh bien, déjà, j'ai une première chose à vous dire, ne culpabilisez pas. Si aujourd'hui vous vous retrouvez dans une situation inexplicable et que votre premier réflexe, c'est de vous retourner vers Dieu et de lui dire pourquoi, même des fois avec un petit peu d'énervement, on peut culpabiliser et se dire « Ah, quand même, c'est pas bien ce que j'ai fait, je parle au Seigneur comme ça. » Ne culpabilisez pas, parce que c'est la bonne attitude que vous avez. Quand vous êtes face à une situation inexplicable, retournez-vous vers Dieu. Et parce que Dieu a la réponse. Et on a la chance, un peu comme je disais juste avant, on se dit tous « Ah, le jour où je serai face à Dieu, j'aurai tellement de choses à lui demander. » On en a qui ont eu la chance d'avoir Dieu directement avec eux. Enfin, le Fils. Mais bon, à travers le Fils, ils ont vu le Père. C'est les disciples. Et les disciples, naturellement, on est un peu comme eux, j'ai envie de dire, ils ont eu cette même attitude. Ils se sont posés à un moment donné des questions sur des situations inexplicables. Et il y en a une qui nous est donnée dans Jean 9, 1-7, dans le Nouveau Testament, j'ai appelé ça le questionnement des disciples. Vous connaissez certainement cette histoire, je vais vous la lire rapidement si vous voulez la prendre, allez-y. Je vous laisse 5 secondes, il faut être rapide, mais sinon je vous la lis. Donc Jean 9, 1-7. « Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle ?» Alors Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu et la gloire de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, il cracha à terre, il fit de la boue avec sa salive, puis il l'appliqua sur les yeux, de la boue sur les yeux de l'aveugle. Et lui dit, « Va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie « envoyé ». Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. » Alors, tu peux cliquer, Jean-Luc, bah voilà, parfait. Alors ici, les disciples se retrouvent face à une situation inexplicable, je dirais plus globale, parce qu'elle ne les impacte pas eux personnellement, pour reprendre les exemples que j'ai donnés tout à l'heure. Ils posent la question simplement à Jésus, en voyant cet aveugle, qui j'imagine devait connaître, puisqu'il dit, il est dit que c'est un aveugle de naissance, donc il devait savoir qu'il était né aveugle. Ils disent, ah Jésus, mais pourquoi peut-on être aveugle? C'est un peu la situation que j'ai expliquée tout à l'heure. Et ce qui est marrant, j'aime bien les disciples, c'est qu'ils viennent avec leur réponse. Ils la soumettent comme ça. J'ai dit la réponse humaine, mais ils savaient qu'ils avaient affaire à Jésus, donc ils ont mêlé un petit peu de spiritualité. Ils ont dit, peut-être que c'est à cause de ses péchés ou celui de ses parents. Et autant j'aime bien la réponse des disciples, mais alors celle de Jésus, je la trouve encore exceptionnelle. Parce que Jésus les voit venir, les disciples, il les connaît aussi un petit peu, et il ne rentre pas dans leur jeu. Il les prend un petit peu à contre-pied, il leur donne cette réponse que j'ai donnée, cette réponse divine. Il ne va pas rentrer dans essayer de expliquer, il dit, si cet homme est né aveugle, c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste sur terre à travers lui. Et à travers cette réponse de Jésus, je pense qu'on peut avoir la réponse à toute situation inexplicable et aussi à la question pourquoi Dieu permet-il l'inexplicable? Dieu permet que l'on vive des situations inexplicables dans notre vie pour que la gloire de Dieu se manifeste sur terre à travers elle. Ok? Alors, derrière cette réponse, il y a tellement de choses qu'on peut imaginer. Et je l'ai noté ici, Dieu permet les situations inexplicables de nos vies pour agir donc de façon puissamment, pour manifester sa gloire. Et on peut imaginer deux choses. Bah, d'une façon visible, c'est la première chose qu'on pense. Dieu agit puissamment, Dieu manifeste sa gloire. Comment? Bah, en montrant qu'il est le grand Dieu, en montrant ses miracles. Et il le montre juste après dans cette histoire. Parce qu'après avoir donné la réponse aux disciples, qu'est-ce qu'il fait Jésus? Eh bien, il guérit cet aveugle. Il réalise le miracle. Donc, une des façons dont Dieu peut manifester la gloire à travers vos situations inexplicables, c'est réaliser un miracle. Et pour reprendre l'exemple du prince d'Égypte, moi, j'ai compris à travers ça. Je me suis dit, ben, Seigneur, pourquoi tu as fait donc que le chemin ne soit pas linéaire, qu'il se retrouve face à la mer? Parce que Dieu, à travers cette situation, il voulait inexplicable que moi, j'ai vécu et que j'imagine... Le peuple hébreu a dû pas trop comprendre aussi. Il a voulu manifester sa gloire. En comment? En ouvrant la mer en deux, en réalisant un miracle visible à l'extérieur. Imaginez l'impact que ça a dû avoir dans la tête de ce peuple qui déjà est sorti miraculeusement d'Égypte. Et en plus, il y a ça en plus. Alors on se dit, bon, ils vont, après avoir vécu ça, bon, ils vont plus jamais se retourner. Bon, on en reparlera après. Ça les a pas empêchés. Mais en tout cas, imaginez l'impact fort. Mais aussi bien Dieu peut manifester sa gloire d'une façon visible à l'extérieur, autant, et c'est un peu plus difficile aussi peut-être de l'accepter, Dieu, à travers des situations inexplicables, peut manifester sa gloire de façon moins visible, mais plus profonde en nous. J'ai noté en agissant d'une façon qui nous rendra plus proches, plus forts avec et pour lui. Et pour illustrer ça, je vais reprendre un exemple personnel que je vous ai déjà parlé. Vous allez dire, j'en parle à toutes mes prédications, mais ça montre que ça m'a, moi, touché fort. C'est la situation de notre mariage avec Pauline. Pauline fait un premier pas vers Dieu. Elle prie, elle dit, Seigneur, si tu existes, fais en sorte qu'à mon mariage, il fasse beau. Symboliquement, le Seigneur a mis la pluie quand ? Quand elle rentre sur... Quand elle rentre au moment du cortège, symboliquement, j'ai dit, Seigneur, à la fin du mariage, aujourd'hui j'en rigole, mais sur le coup, après le mariage, le lendemain, je me suis retrouvé, je me suis mis à genoux, j'ai dit, Seigneur, pourquoi tu as fait ça ? Tu es le Dieu bon, mais pourquoi tu as permis ? Pourquoi tu n'as pas fait en sorte qu'il fasse beau ce jour-là ? Pauline se serait retournée, elle aurait dit, waouh, quel Dieu grand, il faisait beau. Bon, je ne suis pas sûr. En tout cas, le Seigneur a travaillé mon cœur pendant toutes ces années, et j'ai eu la réponse finale en juin dernier, à travers son baptême, qui était un moment fort, et c'est là où j'ai totalement compris le plan de Dieu. Dieu, à travers cette situation inexplicable que j'ai pu vivre, a manifesté sa gloire d'une façon puissante. Il m'a changé, même profondément à l'intérieur, il a changé mon épouse, et il nous a montré qu'il n'était pas simplement le Dieu qui faisait la pluie et le beau temps, mais le Dieu qui touchait en profondeur. Donc attention, à travers les situations inexplicables, Dieu peut nous toucher, à manifester sa gloire de deux façons, d'une façon visible à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Et j'ai noté, il faut persévérer. Alors, Eddie Wallet en a fait toute une prédication. C'est lui qui a dû tricher sur moi. Parce que j'ai ma femme qui est témoin. En juillet, c'était prêt. Non, mais des fois, le Seigneur fait bien les choses. J'avais noté, et il faut persévérer. Et Jésus nous le donne. Dans les situations difficiles, inexplicables de notre vie, on a tous des façons différentes de réagir. Mais il y a une vertu que le Seigneur veut que nous ayons, c'est persévérer. Et Jésus nous le montre à la fin de Jean 9, 1, 7. Parce que, si vous remarquez bien, le miracle qu'il réalise, il ne marche pas tout de suite, j'ai envie de dire. Du moins, il se passe en deux parties. Il y a la partie de Jésus. Jésus, il crache, il fait la boue, il l'applique sur les yeux. Mais le fait d'appliquer cette boue ne rend pas l'aveugle la vue à cet aveugle. Qu'est-ce qui se passe ? Jésus lui dit après, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Ça prouve que dans les situations inexplicables, Dieu a sa part de choses à faire, bien sûr. Mais nous avons aussi notre part des choses à faire et ça demande aussi de la persévérance. Si cet aveugle s'était dit, ouais, c'est bon, moi je ne vois pas en plus, je ne vais pas aller à ce réservoir, je ne vois pas, je ne connais pas le chemin. Non, il a persévéré, il est allé, il a écouté ce que Dieu lui a dit de faire et il a retrouvé la vue. Amen. Alors, on a fait une grosse partie, il nous reste la dernière partie. C'est trois exemples rapides qui vont nous donner des outils pour comprendre comprendre les situations inexplicables de notre vie, des outils pour comprendre à tous les coups. Alors, on l'a dit, dans nos situations inexplicables, Dieu veut manifester sa gloire, mais comment va-t-il manifester sa gloire ? C'est ce qu'on a envie de savoir, combien de temps ça va durer aussi, c'est ce qu'on a envie de savoir, et on a envie de savoir aussi peut-être la réponse. Pourquoi tu nous fais vivre ça ? Et premier exemple, c'est donc dans Actes 10, 29, et c'est l'histoire de Pierre et les animaux interdits. Alors, cette histoire, je ne vais pas la lire, je vous invite à la relire cette semaine, je vais vous la raconter, c'est aussi pour essayer de rester dans le timing, hein, ne pas être trop long, mais je vous invite vraiment, j'ai noté à chaque fois des petits points, si vous voulez revenir, n'hésitez pas à noter. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire de Pierre et les animaux interdits, mais pour résumer rapidement, c'est l'heure du midi, Pierre a faim, et il va donc sur le toit de la maison pour prier. Et là, il rentre en transe, il est dit, du moins qu'il entre en transe, et il a une vision un peu particulière. Il voit un drap descendre, un drap blanc, avec plein d'animaux dessus, et des animaux impurs, dit impurs, ou inconsommables à l'époque, du moins la loi juive interdisait de les consommer. Et cette vision est accompagnée d'une voix, d'une parole de Dieu qui dit, Pierre, lève-toi, tue et mange. Alors Pierre, il hallucine, il dit, mais Seigneur, il lui répond, Seigneur, je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur, pourquoi tu me demandes ça ? Et une autre voix insiste et Dieu dit, ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Alors, On est face ici à une situation, Pierre du moins se trouve face à une situation inexplicable, que j'ai résumée par une question qui commence par un mot pourquoi, comme ça ma définition que je vous ai donnée au début est bien cohérente. Et Pierre se demande, mais pourquoi Dieu me demande-t-il de manger de l'impur alors que la loi qu'il a décrétée me l'interdit ? Pourquoi ? C'est un peu bizarre. Et s'il faisait une première interprétation, du moins de ça, de cette situation, il dirait, bon ben merci Seigneur, j'avais faim en plus, allez-y, ramenez tous les animaux impurs, tuez-les, on va se faire un gros festin et on va manger, Dieu me l'a dit. Mais Pierre trouve ça bizarre et il veut comprendre. Et comment fait-il pour comprendre ? Ben déjà Pierre, donc, comme je vous l'ai dit, il manifeste un seul désir, c'est comprendre. Il persévère, il ne s'arrête pas. Il persévère et ne s'arrête pas à la perte. Première interprétation qu'il trouve bizarre ou inexplicable. Et la réponse de Dieu, grâce à cette persévérance, elle lui est révélée via le Saint-Esprit. En fait, derrière cette image, Dieu ne lui disait pas « vas-y, mange de l'impur », mais en fait, il préparait la visite de Corneille, qui était un non-juif, et à l'époque, la loi juive n'autorisait pas que des juifs rentrent en contact avec les non-juifs, entre guillemets. Et Dieu, derrière cette image, lui disait « Seigneur, Pierre, étends ta vision, ne t'arrête pas seulement aux juifs, je ne suis pas venu uniquement pour les juifs, mais pour tout le monde. » Alors c'était une vision, et donc un peu particulière, mais Pierre, en tout cas, il a persévéré et il a compris. Et surtout, Pierre, avant de révéler ce qu'il a compris, il s'assure de l'avoir bien saisi. Alors, conclusion importante de cette situation inexplicable vécue par Pierre, et qu'est-ce qu'on peut en retirer ? Ben, c'est que la réponse, elle lui est révélée par le Saint-Esprit. Et une nouvelle fois ce matin, c'est une invitation de Dieu, je pense particulière pour nous, d'apprendre à être sensible à son Saint-Esprit. Apprenons à être sensible au Saint-Esprit. Alors, je sais ce que vous allez dire. Oui, mais moi, je ne suis pas comme Pierre, je ne vois pas des visions comme ça. Je n'entends pas une voix, Dieu me parler clairement. Je sais. On n'est pas là aussi, pareil, pour vous mettre de la culpabilité sur votre cœur. Ça s'apprend. Être sensible à l'esprit, ça s'apprend, bien sûr. Et puis, même si ce n'est pas le cas, j'ai envie de dire, Dieu a bien fait les choses. Et le temps que vous appreniez, Dieu a fait en sorte que nous soyons un corps, que chacun a des capacités, et que pour les mettre au service des autres, et que d'autres sont sensibles et peuvent aussi vous apporter les réponses à travers ça. Et autrement, on dit aussi, peut-être que vous dites, bon, moi ça va, merci Seigneur, je suis sensible à l'esprit. Mais là encore, et je ferai une petite parenthèse, malgré ça, Dieu nous fait ici aussi un petit point d'exclamation. Attention, même si vous êtes sensible à l'esprit, même si vous recevez des choses, faites attention des fois à la première interprétation qu'on peut faire des paroles. Et assurons-nous d'avoir bien saisi avant de révéler. Amen. Et donc un dernier verset, tel un encouragement, et je voulais aussi insister peut-être pour ceux qui se disent « je ne suis pas sensible à l'esprit », c'est à nous, tous ses enfants, que Dieu révèle par l'esprit. Soyons sensibles à l'esprit, apprenons à l'être en tout cas. 1 Corinthiens 2,10. Donc un premier outil, le Saint-Esprit, être sensible par l'esprit. Dieu peut donc répondre à nos situations inexplicables par l'esprit. Et d'autres outils, alors là on va en faire 3 en un. C'est magnifique en une histoire, celle-là je l'aime bien. Et en plus elle reparle du peuple hébreu. Qui sort de, donc après sa sortie d'Égypte, donc c'est un lien parfait, c'est l'histoire du veau d'or. Dans Exode 32:1-20, je vais vous le lire, certainement que vous l'avez déjà entendu, mais c'est toujours bien de remettre les choses en place. Donc Exode 32:1-20. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous savons ce qu'il est devenu. » Aaron leur dit « Ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles et apportez-les-moi. » Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et les apportèrent à Aaron, qui les jeta dans un moule et fit un veau d'or. L'Éternel dit à Moïse « Va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau d'or et ils se sont prosternés devant lui, lui ont offert des sacrifices et ils ont dit « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit « Pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammera-t-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte ? Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, les serviteurs auxquels tu as dit, en jurant par toi-même, « Je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé et ils le posséderont à jamais. » Alors Moïse retourna et descendit de la montagne les deux tables du témoignage dans sa main. Alors, quelle situation inexplicable on trouve ici ? Alors c'est le peuple, hein, sorti d'Égypte, qui se pose la question et qui se dit, après tout ce qu'on a vécu, Seigneur, tout ce que tu as fait, tu nous as fait sortir d'Égypte puissamment, mais pourquoi tu nous abandonnes maintenant ? Vous imaginez, ils se retrouvent dans le désert, sans Moïse, leur guide, ils se sentent abandonnés. Et qui ne s'est jamais posé cette question face à une situation inexplicable, difficile de sa vie, moi c'est déjà été le cas, se retourne vers Dieu et dit, mais Dieu, pourquoi tu m'abandonnes maintenant ? Et comment ils font pour comprendre cette situation inexplicable ? Le peuple, bon, ils agissent mal. Ils se créent un faux Dieu, un veau d'or. Heureusement, Dieu est bon, il prévient Moïse, et Moïse descend de la montagne et vient directement avec les réponses de Dieu à donner au peuple à cette situation inexplicable. Ces réponses, c'est quoi ? Ce sont un renouvellement des promesses et surtout, symboliquement, les tables de la loi, les 10 commandements. Alors, que retenir de cette situation, du moins de cette histoire ? C'est que face à une difficulté de la vie, c'est là où les situations inexplicables ou l'inexplicable peut prendre vite une grande place. Et vous êtes certainement déjà retrouvé dans cette situation où on ne voit pas de réponse de Dieu venir et il semble alors, comme le peuple là, plus simple d'en trouver ailleurs. Et il faut dire ce qui est, c'est que le monde d'aujourd'hui dans lequel on vit, des veaux d'or, on en a des dizaines accessibles. L'horoscope, la voyance, Internet utilisé à mauvais escient. Ce sont des sources de réponses faciles, on pourrait se dire, face à une situation inexplicable, je ne vois pas de réponse de Dieu, je vais aller me réfugier là-dedans. Un peu comme le peuple ici s'est réfugié derrière son faux Dieu. Mais il est important de rester accroché à Dieu, même dans ces moments d'incompréhension, avec 3 leviers pour lever cette incompréhension qui sont clairement ici montrés. Premièrement, premier levier pour face à une situation inexplicable, appuyez-vous sur la sagesse des anciens. Ici, heureusement que Moïse était là, parce que sinon le peuple il se serait totalement perdu. Non, ils se sont appuyés sur Moïse. Deuxième levier important, les promesses. Souvenez-vous dans les situations les plus inexplicables de votre vie, ce que Dieu a fait et ce que Dieu a promis. Il a notamment promis une chose, c'est qu'il serait avec nous jusqu'à son retour, dans les bons comme dans les mauvais moments, dans les situations inexplicables comme dans les situations les plus inexplicables aussi. Et enfin, symboliquement, le troisième levier, il est représenté ici par les tables de la loi, par les 10 commandements. Dans les situations inexplicables de notre vie, restons accrochés à la parole. Amen. Avec ce verset, pour conclure, Proverbe 3:5, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas uniquement sur ta sagesse. Ne sois pas un sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. » Amen. Et dernière situation. Alors celle-là, pour l'introduire, je suis parti d'un constat. Tu peux cliquer, Jean-Luc. C'est que ici, on a pu voir déjà 4 outils nécessaires pour comprendre l'inexplicable, du moins donnés par Dieu. Mais avant de parler des outils, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. Bon, certes, on a des outils, mais pour comprendre l'inexplicable, il faut aussi avoir certaines, et ça demande certaines vertus. Persévérance, patience. Ça dépend pas de Dieu, ça dépend que nous, entre guillemets, même si on peut demander à Dieu de nous donner persévérance et patience. Et c'est sans doute le plus difficile. Vas-y Jean-Luc. Et ça m'a donné une idée, c'est qu'on peut dire que comprendre l'inexplicable, dans un premier temps, c'est peut-être avant tout l'accepter. Accepter qu'on puisse vivre une situation inexplicable dans notre vie. Et pour illustrer ça, j'ai pris l'exemple suprême, notre modèle. Donc là, vous pourrez dire, bah, Geoffrey... Je ne peux rien dire contre ça, c'est Jésus. Parce que Jésus, dans son histoire, des situations inexplicables, il en a vécu. Et surtout une, forte, c'est sa condamnation. Son jugement, une mascarade. On lui a craché dessus. Et qui a craché dessus ? C'est le peuple juif, alors qu'on a vu tout à l'heure que c'est le peuple qu'il a, notamment au sein duquel il a fait des miracles incroyables. Etc, etc. Mais à aucun moment... Du moins, durant ces situations inexplicables, Jésus ne s'est retourné, ne s'est rebellé et a dit « Mais moi j'en ai marre, pourquoi je vis ça ? Pourquoi tu as choisi moi Dieu ? C'est bon, j'arrête tout, merci, au revoir. » Je m'arrête là. Non. Jésus, et tu peux cliquer, dans les situations inexplicables, ce qui comptait pour lui, c'était de rester proche du Père quoi qu'il arrive, à travers la prière. Alors j'ai noté parce que dans Luc, je ne sais pas si vous savez, mais dans Luc, il y a 6 moments importants où on voit Jésus prendre un temps à part où il se met vraiment à part pour être en prière avec son père. Et dans la situation la plus inexplicable, avant de la vivre, du moins il sentait qu'elle allait arriver, son jugement, la crucifixion, la veille, il est dit que dans le jardin de Gethsémané, il s'est même retrouvé trois fois il est allé à part pour prier à Dieu. Jésus savait qu'à travers les situations inexplicables, Dieu voulait manifester sa gloire. Et avec Jésus, la gloire de Dieu s'est manifestée totalement. Si Jésus s'était simplement retourné en disant à Dieu « Pourquoi ?» sans chercher plus, sans accepter dans un premier temps, sans chercher auprès de lui à travers les prières, la réponse, on n'en serait pas là aujourd'hui. On ne serait pas là tous réunis avec cette chance d'avoir nos péchés effacés et la vie éternelle. Amen. Jésus, en tout cas, à travers les situations inexplicables, avait compris une chose qu'il faut que nous saisissions. Et il avait un outil supplémentaire, la prière. Amen. Alors, c'est le bilan. Pour le bilan, je voulais faire un peu une petite... ordonnance. Et là, je vais vous embêter, il y a le naturel qui revient, je vais faire mon prof. Dans un premier temps, Jean-Luc l'a affiché, on a dit « Pourquoi Dieu permet-il l'inexplicable ?» Est-ce que quelqu'un veut lire le résumé que je propose à voix haute ? Je sais, ça vous rappelle en enfance, peut-être que ça vous traumatise, sinon je vais le faire, ou alors sinon je désigne. Vas-y. Amen. Deuxième chose, on a donc parlé comment comprendre l'inexplicable. Est-ce que quelqu'un veut lire aussi ? Nathan, il se retourne, mais c'est pas grave, je vais le faire. En restant sensible au Saint-Esprit, en s'appuyant sur la sagesse des anciens, sur les promesses de Dieu et ce qu'il a fait, et en méditant sa parole, et en étant comme Jésus, des hommes et des femmes de prière. Surtout dans ces moments-là, dans ces situations inexplicables, j'ai oublié de le dire, ne nous contentons pas, j'ai envie de dire, peut-être du moment quotidien que nous pouvons passer avec Dieu. Mais comme Jésus dans Gethsémané avant la crucifixion, multiplions encore ces moments. Et dernièrement, ne pas oublier, toujours pas de volontaire, c'est pas grave, je vais le faire. N'oublions pas que comprendre, ça peut être parfois être dans un premier temps accepté. Le temps de Dieu n'est pas le nôtre, c'est l'essence même de la foi. Persévérons et surtout ne cherchons pas les réponses ailleurs en attendant. Amen. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Alors je sais peut-être que vous êtes là et vous êtes dit au début en voyant la première question, cool, face à la situation inexplicable de ma vie, Geoffrey, ça commence par la même lettre. Là, Geoffrey va me donner la réponse, il va me demander sa situation. Non, vous voyez bien que la réponse, elle vient de Dieu à travers votre vie, à travers lui. En tout cas, ce matin, ce que je voulais terminer, c'est peut-être prier pour vous. Et que si vous vous retrouvez dans des situations comme ça, vous puissiez, si vous avez vécu des choses qui ensuite vous laissent peut-être une situation que vous avez vécue inexplicable, qui vous laisse peut-être aussi, pour faire le lien avec ce qui a été dit ce matin, dans du découragement aujourd'hui parce que vous n'avez pas de réponse, peut-être de la peur, parce que face à une situation inexplicable, on peut aussi agir à la peur, ça peut aussi donner rejet, honte, pour reprendre les quatre mots de ce matin, que le Seigneur puisse continuer à agir en vous et vous donner les réponses. Amen. Amen. Je vais prier. Seigneur, je veux te prier et te remercier, Seigneur, pour ce que tu as mis sur nos cœurs, pour ce matin, ce moment passé ensemble, Seigneur. Merci parce que tu conduis les choses, tu as un plan parfait. Alors certaines fois, Seigneur, dans ton plan, on peut se retrouver, Seigneur, face à de l'inexplicable, des choses qu'on ne comprend pas. Et je te remercie, Seigneur, parce que tu viens de prouver encore ce matin, Seigneur, de le montrer. C'est que tu nous as donné les outils, Seigneur, pour comprendre, même quand on ne comprend pas. Tu nous as donné les outils, Seigneur, et tu fais en sorte que ce qui peut paraître inexplicable trouve une explication auprès de toi. Le plus dur, Seigneur, c'est de la trouver. Alors je te prie vraiment, Seigneur, de nous donner la force que si nous avons vécu, que si nous vivons et si nous en vivons plus tard, Seigneur, trouver la force pour toujours trouver la réponse auprès de toi. Je te remets mes frères et sœurs, Seigneur. Je remets tous tes enfants, Seigneur, entre tes mains. Viens, Seigneur, touche-nous au plus profond, Seigneur. Que nous puissions être des hommes, des femmes de prière, des hommes et des femmes sensibles à ton esprit, accrochés à ta parole, Seigneur. Et qui compte, Seigneur, aussi, qui se souvient de ce que tu as fait et de ce que tu as promis. Amen.